Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Alire. Vous êtes à l'écoute de l'émission Lusitania. Lusitania est une émission hebdomadaire sur l'actualité culturelle liée de près ou de loin à la lusophonie. Aujourd'hui au micro, Marlène Alves et à la technique, Armand Gury. Lusitania reçoit aujourd'hui Éric Darmon. Bonsoir.
Bonsoir.
Éric Darmon, qui est secrétaire général de l'association Les Amis de Franck Krachberg.
Krachberg.
Je vous avais dit que j'allais mal le prononcer, Krachberg, pour nous présenter deux événements. La Nuit Blanche, qui se déroule samedi 7 juin, et puis le 14 juin, les Cris pour la planète au Bois de Vincennes. Mais avant, Éric Darmon, vous pouviez peut-être vous présenter ?
Oui, bah écoutez, j'ai la chance d'être secrétaire général de l'association des Amis de Franck Krachberg pour la simple et bonne raison que je suis un des fondateurs il y a 20 ans de cet espace que Krachberg a voulu, a désiré de son vivant, où il a fait une donation à la ville de Paris de 20 œuvres que nous exposons en permanence. Pour quelle raison ? Tout simplement parce qu'il avait son atelier depuis 1957 dans cette allée qui s'appelle le chemin du Montparnasse au 21 avenue du Maine à Paris dans le 15e. Et Krachberg a, dès les années 57, été installé. Ben, je raconterai peut-être dans la biographie, dans la suite de l'émission, comment il est arrivé à Paris et pourquoi il s'est installé, pourquoi il aimait tant Paris, j'allais dire même Montparnasse, et pourquoi il s'est installé également au Brésil. Mais si vous me permettez, avant, je voudrais vraiment prendre un petit peu de temps et faire un bel hommage à notre ami Sébastião Salgado qui nous a quittés, qui était un ami cher cette semaine, absolument, et un ami cher aussi de Krachberg. Ils étaient très proches tous les deux, c'était des hommes tous les deux engagés, c'est vraiment le terme qui les qualifie tous les deux, engagés pour la défense de la nature, chacun avec ses moyens, mais surtout ils se sont retrouvés sur la photo, grâce à la photographie, et tous les deux utilisaient la photographie comme un geste militant et un geste dénonciateur de la folie humaine, et en même temps aussi de la beauté de la nature, et qu'il fallait absolument la préserver.
Oui, et pas la détruire comme on le fait souvent.
Et pas la détruire. Donc Krachberg, qui est né en 1921, donc beaucoup plus âgé que Sebastião Salgado, mais précurseur aussi, justement, dans ce combat qu'il a mené jusqu'à la fin de sa vie pour la défense de la nature, avec son œuvre, avec son travail. Je vais
en parler par la suite, oui, bien sûr. Et les points de liaison, bien sûr, entre les deux, c'est la nature. Sachant que Salgado, il a aussi œuvré beaucoup pour les peuples de l'Amazonie.
Oui. Alors, Krachberg, quand il s'est installé au Brésil en 1948, pour des raisons de vie, de tragédie de vie, puisque Krachberg est né en Pologne en 1921, juif, il a subi toutes les persécutions possibles et imaginables dans sa ville, dans sa région. Il a été maltraité, toujours, comme sa famille, et évidemment, au moment de la guerre, persécuté, toute sa famille a été déportée, exterminée dans les camps nazis. Et c'est un des seuls rescapés de sa famille. Et il s'est engagé dans l'armée polonaise, puis dans l'armée russe, l'armée rouge. Il a combattu à ses côtés. Il a été un des premiers à découvrir les camps d'extermination. Donc le traumatisme qu'il a eu est énorme, de découvrir ses corps. Il en parlait d'ailleurs toute sa vie, de ses corps entassés et brûlés. Ça l'a traumatisé. Et à la fin de la guerre, en 1945, il a été à Stuttgart réfugié, dans un camp de réfugiés américains. Et là, ils l'ont aidé et il a suivi des cours d'un grand artiste qui s'appelle Willy Baumeister du mouvement du Bauhaus. Et pendant un an, il a étudié avec lui l'art, parce qu'il a Krachberg, dans son autre vie, dans sa première vie, était commencé à être artiste, évidemment, même juif, on lui refusait, parce qu'il était juif, on lui refusait l'entrée dans des écoles d'art, dans des écoles de beaux-arts, mais malgré tout ça, il a réussi à se créer une connaissance de l'expression artistique qu'il a eue toute sa vie, et donc petit à petit, avec... Si on revient au moment du Bauhaus et donc de Willy Baumeister, pendant un an, il lui a réappris un petit peu les règles de l'art. Et ce n'est qu'en 1948, qu'il a décidé, donc après plus d'un an à Stuttgart, il a décidé de venir à Paris parce qu'il avait de la famille et des amis qui pouvaient l'aider. Entre autres, Willy Baumeister lui a confié une lettre de recommandation auprès de Fernand Léger, qui lui a permis donc de rencontrer ensuite Marc Chagall. Il se trouve par des liaisons à la fois tout le monde se connaissait, se croisait comme ça. Et Krasberg, donc en 48, plutôt que de partir en Palestine, justement parce que il voulait l'État d'Israël venait tout juste de se créer, et mais il ne voulait plus la guerre, il ne voulait plus les hommes, il était traumatisé par la soi-disant civilisation qui avait détruit toute sa famille et détruit son âme, et donc par des concours de circonstances, il arrive au Brésil en 1949, et là seul, sans argent, il monte petit à petit dans l'histoire, il apprend le portugais, et ensuite à São Paulo, il participe à la création du musée d'art moderne de São Paulo, et petit à petit il s'intègre dans les mouvements concrétistes, dans les mouvements artistiques brésiliens de l'époque. Il est apprécié. Alors évidemment, il y a la communauté juive qui l'aide, qui le supporte, qui lui donne de l'argent. Mais quand même, au bout de 10 ans, je vais vite, hein, mais c'est normal, au bout de 10 ans, il remporte le grand prix de la Biennale de São Paulo. Et comme il dit, il vend toutes ses œuvres, tout ce qu'il a exposé. Avec l'argent, il fait une grande fête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il revient à Paris. Mais pas à Paris, à Montparnasse. Et donc, 1957... il s'installe au 21 avenue du Maine, dans un atelier que son ami Gigi Guadagnucci, italien, lui confie, et il va y rester jusqu'à sa mort, jusqu'en 2017. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était en 2015. Et moi, j'ai la chance donc d'avoir mon studio de production, parce que je suis producteur et réalisateur, et mon studio de production était juste en face de l'atelier de Krasberg. Et... ce qu'il y a d'étonnant, c'est que quand moi je me suis installé en 1984, Krasberg était évidemment là depuis 30 ans, mais comme diraient les jeunes aujourd'hui, je ne l'ai pas vraiment calculé. Je ne savais pas qui il était, parce qu'en 1984, il ne travaillait plus dans son atelier avenue du Maine, il travaillait déjà à Nova Viçosa, parce qu'il avait changé au Brésil, parce qu'il avait changé son approche de l'art.
Et vraiment,
au début, dans les années 50, il travaillait toujours avec des éléments naturels, mais il faisait des tableaux qu'il pouvait faire dans son atelier. Il faisait venir du Brésil des éléments naturels qu'il reconstituait sous forme de tableaux. Mais il y est arrivé un moment, évidemment, où dans sa vie au Brésil, dans le Paraná, sa maison, son atelier a été détruite par le feu. Et sa première maison, toute sa collection d'orchidées, tous ses animaux, toutes les choses qu'il avait reconstituées justement pour lui redonner goût à la vie, ont été détruites par le feu. Premier traumatisme. Et évidemment, l'autre traumatisme a été la destruction de la forêt amazonienne. Et là, évidemment, il s'est dit, ça y est, là, la barbarie recommence. Mais peut-être on peut écouter Krasberg.
On peut l'écouter, et c'est ce que j'allais vous proposer, d'écouter un petit peu la voix de Franz Krasberg, qui est extrait d'un film.
Ah oui, d'un film que j'ai produit, exactement, réalisé par Maurice Dubroca, et que nous l'avons produit il y a 20 ans maintenant. Et disons que c'est la référence, en toute modestie, la référence oui. De la biographie, la vie et l'œuvre de Krasberg.
Alors, on va écouter donc cette voix de Franz Krasberg.
Je suis un homme très révolté. J'ai un très fort sentimental pour la vie. J'ai beaucoup trop souffert pour ne pas lutter à faveur de sa vie. J'ai envie de prendre des morceaux de bois brûlé, les restes de feu qu'ils ont mis, apporter à Nova Vesosa, préparer à l'exposition, montrer un morceau de ce charbon. Regardez, hier c'est un très bel arbre. Qu'est-ce que l'homme a fait? J'ai envie de crier. Alors j'écris avec mon travail. C'est tout. J'ai pas autre moyen de montrer ma révolte.
Et donc on vient d'écouter donc la voix de Frank Crashberg qui nous parle de cette forêt brûlée, de cette nature qui a été détruite. Et les bruits qu'on entend de fond, c'est
du feu que nous avons enregistré au moment du tournage. Et c'est vraiment ce que vous avez écouté, c'est vraiment son manifeste. Il a écrit un autre manifeste plus tard. Mais là, c'est son manifeste, sa revendication, son cri de révolte. C'est vraiment tout Franz Crashberg dans ce qu'on vient d'entendre. Mais il faut que je vous explique quand même ce qu'est son œuvre. Justement issu de la destruction de cette forêt qu'il aimait tant. Ce sont des arbres brûlés, ce sont des arbres qu'il a récupérés, brûlés sur les scènes de feu. Il y a un très beau film qui a été réalisé par Walter Salles en 1984, où on voit vraiment Crashberg. Tout à l'heure, je disais que c'était notre film, la référence, mais il y a celui de Walter Salles qui est formidable aussi. En 84, où on voit Crashberg justement photographier les feux et photographier la destruction de la forêt. Et justement, son appareil photo était une arme pour dénoncer. Non seulement il a montré des feux de forêt, mais il a montré aussi le désarroi des autochtones qui étaient là. Il y a même une photo mythique qu'on n'a jamais vue, qu'il a dû sûrement détruire, d'une famille d'autochtones pendus, tellement c'était le désastre pour eux, puisque leur vie était détruite. Donc Crashberg, son message, c'est vraiment à travers ces arbres brûlés. Il les prenait, il les amenait dans son atelier à Nova Vesosa et il avait l'habitude de dire que c'était plus dangereux de transporter ces arbres brûlés dans son camion que de la drogue. Il disait parce que ces arbres brûlés étaient pour lui la matière première pour les refaire vivre, les rehausser, les remettre sur pied, leur redonner vie grâce à son intervention d'artiste qui était à la fois grâce aux pigments qu'il allait récupérer dans le Minas,
dans la forêt,
dans Minas Gerais, dans les mines générales, des pigments de toutes les couleurs où il dansait tellement c'était beau, cette région magnifique dans laquelle, mais il rapportait ça donc dans son atelier, revisiter finalement ces arbres brûlés ou ces lianes brûlées qui étaient comme des corps torturés et les installer à l'exposition, comme il dit, parce que Crashberg n'aimait pas vendre ses œuvres. Il les vendait que quand il avait besoin d'argent. Il les exposait, il les prêtait, il les donnait à des institutions. Et pour lui, c'était plus l'important, c'était ça. L'art pour l'art, ça ne l'intéressait pas. Son œuvre était un moyen, était un message, une revendication. Une revendication pour l'homme, pour la survie de l'homme, la survie de la nature, évidemment. Et c'est ça son message. Donc, l'utiliser, cette nature torturée, assassinée, pour dénoncer justement cette catastrophe qui continue aujourd'hui malgré les nouvelles lois que Lula a mis en place, mais qui n'arrête pas quand même la destruction. Et donc ce cri de révolte, Crashberg l'a poussé toute sa vie. Dans les années 75, avec le grand critique d'art Pierre Restany, ils ont écrit ensemble le manifeste du Rio Negro, qui est aussi donc ce qu'il a sous-titré comme un manifeste pour du naturalisme intégral. C'est une forme d'injonction en disant à l'artiste « révoltez-vous, utilisez votre œuvre pour dénoncer la destruction de la nature. Il disait que le reste, ce n'est pas la peine. Il parlait de Picasso avec Guernica. Oui. Il disait, voilà, ça, c'est vraiment le côté, effectivement, militant, le côté combattant. Et Crashback, ça a toujours été ça.
Oui. Donc, non. Continuez. J'allais vous demander aussi comment vous êtes arrivé à ce projet. Je vois bien que vous êtes passionné par Franz Crashback, que vous avez connu, mais comment ce projet de l'espace Franz Crashback, j'espère.
À la fin de l'émission, vous allez réussir.
Exactement. Mais avant ça, je vais dire à nos auditeurs qui sont bien sur Alire FM 93.1, excellente émission Lusitania. Donc, revenons à oui. vous et ce projet, comment il est né? Parce que vous nous parlez de Franz Crashback, que vous avez connu, de son histoire, mais du fait qu'il a vécu dans cet espace à côté de Montparnasse, mais son atelier qui est aujourd'hui l'espace Franz...
Non, pas exactement ça. C'est-à-dire que l'atelier de Crashback était un petit 60 mètres carrés. Faut vous dire que le 21 avenue du Maine, c'est un passage, donc oui. le chemin du Montparnasse, avec des ateliers d'artistes, mais pas que d'artistes,
d'ailleurs,
des artisans. On est au pied de la tour Montparnasse, et c'est un des vestiges de l'histoire de Montparnasse. Donc, quand il est arrivé en 1957, il s'est installé là, dans ce petit 60 mètres carrés, et il a, jusqu'dans les années 70, donc comme je disais tout à l'heure, créé ses œuvres. Et ce n'est qu'en 2003, en 1996, la grand-mère, mamie, on l'appelait, est décédée, et nous avons peur que les enfants, les héritiers, vendent à des promoteurs. Donc on appelle la ville de Paris, qui vient à notre rescousse et qui préempte cette allée. On se sent sauvé, sauf que la ville a aussi voulu démolir. Et là, donc, on s'est battu, on a créé un mouvement de sauvegarde et finalement, on a réussi à sauver cette allée, ce passage, ce chemin du Montparnasse. Et on a créé le musée du Montparnasse dans les années donc 96. Et en 2003, il y a eu un espace, par un jeu comme ça de local musical, qu'on pourrait dire, il y a un espace qui s'est libéré au fond de l'allée. Et Crashback, pour remercier Bertrand Delanoë de tous les bienfaits, des expositions magnifiques, parce qu'il ne faut pas oublier que Crashback a exposé à Paris dans des endroits magnifiques, comme à la Villette, Jacques Lienhardt a exposé Crashback en 1996, je crois, ou 17, je ne sais plus très bien. Et ensuite, en 2003, il y a eu la formidable exposition à Bagatelle, organisée par Sylvie Deponte, dans le cadre de l'année du Brésil en France à cette époque, donc il y a exactement 20 ans. Jean Gauthier avait organisé ça, il était à la ville de Paris, et c'est grâce à lui que cet événement a eu lieu. Donc il y a eu des événements formidables à Paris. Donc Bertrand Delanoë était à l'époque maire, et c'est vrai qu'il avait beaucoup aidé, il avait médaillé, enfin c'était un ami proche de Crashback. Et pour remercier de tout ce qu'il avait fait, il a proposé, justement, avec Jean Gauthier, qui était à la mairie de Paris, de faire une donation de 20 œuvres emblématiques de son travail, qui sont exposées actuellement donc, dans l'espace Crashback, qui est au fond de l'allée, au fond du chemin du Montparnasse. Et quelques années plus tard, nous avons réussi à acquérir un autre espace à côté que nous, association, louons, en sachant que le premier espace est réservé aux œuvres de cette donation, mais nous permettons, depuis la mort de Crashback, je le précise, d'exposer des artistes qui viennent du Brésil, qui viennent de Guyane, qui viennent de France, qui travaillent dans cet esprit art et nature, puisque à la mort de Crashback, nous avons renommé Centre d'art contemporain art et nature Franz Crashback. Donc, Parce que je veux vous dire qu'à l'époque du vivant de Krasberg, il ne voulait pas entendre parler d'autre chose que de lui-même. Donc il disait, vous ne me respectez pas. Quand il était au Brésil, on en profitait pour faire une idée, hein, mais il y avait toujours un espion qui venait. Et alors là, il arrivait furibard et il disait, j'enlève tout, vous ne me respectez pas. Nous, on le calmait au bout de quelques jours. Et finalement, jusqu'à sa mort et jusqu'à aujourd'hui, nous exposons donc cette donation qu'il a faite à la ville de Paris. Des œuvres formidables que vous pouvez voir.
Oui. Qui sont gratuites, hein, il faut les dire à nos auditeurs. L'entrée est gratuite.
Et l'entrée est gratuite, et surtout, nous exposons dans un autre espace qui est à peu près équivalent en superficie des artistes que nous recevons, que nous connaissons, qui sont proches de Krasberg. On fait même 3 mois par an une idée que nous avons eue qui est un Krasberg vu par. 3 points de suspension, voilà. Ses amis. Et nous invitons donc des proches de Krasberg, comme Claude Mollard, qui a été donc un des fondateurs, évidemment, qui est le président d'honneur de l'association, qui a très bien connu Krasberg, qui a écrit avec Pascal Lismonde un très beau livre de référence sur la biographie de Krasberg, et qui évidemment a énormément œuvré pour la reconnaissance de son œuvre et de cet artiste, puisque grâce à lui, il y a eu des expositions historique, je ne suis pas vraiment chronologique, mais en 1975, il se trouve que grâce à Pierre Restany et Claude Mollard, Krasberg a exposé au CNAC, qui est donc le centre national, qui était rue Berryer, qui était sur la préfiguration du centre Georges Pompidou. Et ce qui est incroyable, c'est que Krasberg est le premier artiste à avoir exposé sous le nom de centre Georges Pompidou, alors qu'il n'était pas encore construit. C'était encore dans l'hôtel particulier Rothschild, rue Berryer. Oui. Et moi, jusqu'à il y a 3 ans, quand on a fait un focus sur cette période de la vie de Krasberg, je pensais que c'était une petite exposition. Puis on a découvert des photos, mais incroyables. Et dans ces photos, on a vu que c'était gigantesque. Il y avait plus de 90 œuvres et des grandes œuvres de l'époque. Ce n'était pas encore les bois brûlés. C'était les bois polis, c'était les ombres, c'était les empreintes, c'était les moulages. Parce que bon, l'œuvre de Krasberg est quand même extraordinaire. Elle a évolué. Oui, sauf qu'il a toujours fait toute sa vie. Toujours. Il a fait des ombres, des
la nature.
De la nature, mais jusqu'à la fin de sa vie. Mais il a rajouté, en fait, son cri à travers ses arbres brûlés dès les années 70. Et là, effectivement, dans les expositions précédant ce moment-là, il n'y avait effectivement que des œuvres murales, des ombres qui sont absolument magnifiques. Et vraiment, je vous conseille de venir les voir, voilà. Parce que nous avons la chance d'en avoir quelques-unes.
Oui, 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 qui sont très belles. Donc, c'est dans cet espace qui est qui se trouve au chemin de Montparnasse, au 21 avenue du Maine. Donc, c'est pas loin. Vous pouvez y aller. C'est gratuit. Et c'est magnifique. Voilà. En plus des œuvres que vous exposez, il y a souvent des conférences, rencontres, exactement. Etc.
Toujours liées à la nature, à la défense de l'environnement, à la défense des autochtones. Nous invitons beaucoup de représentants des populations autochtones, aussi bien brésiliennes que péruviennes et encore plus guyanaises. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la Guyane
fait partie de cette forêt
amazonienne, avec les mêmes problèmes, les mêmes tragédies, avec les orpailleurs, avec l'acculturation, avec toutes ces problématiques que les autochtones ont. Et on a la chance et le privilège de recevoir ces personnes qui ont vraiment des messages très forts. Mais il y a d'autres conférences plus ludiques, plus amusantes.
Oui, et même des rencontres pour les enfants. Mais on en parlera plus tard.
D'accord.
Là, on va écouter une œuvre qui s'appelle Baquianas Brasileiras, la numéro 5, Arias Cantilena. C'est interprété par Barbara Hendrix dans le cadre d'un enregistrement de cette Baquianas Brasileira numéro 5, créée par Villa-Lobos, dirigée par Henri Batisse avec la Royal Philharmonic Orchestra en 1986. On écoute. Donc, on ne va pas passer tous les morceaux parce qu'ils durent 6 minutes oui. 08 avec la belle voix de Barbara Hendricks. Mais c'est un morceau magnifique que je recommande à nos auditeurs d'aller voir sur Internet et puis de l'écouter tranquillement chez soi. Parce qu'il est splendide.
J'ai eu la chance de faire de réaliser un documentaire sur Villa-Lobos. Et il se trouve que Crashberg a rencontré Villa-Lobos à l'hôtel Bedford dans les années 50. Juste, il était âgé déjà, Villa-Lobos. Et il aimait beaucoup. Il aimait beaucoup ce compositeur exceptionnel. Et je veux juste dire que Villa-Lobos et Crashberg, il y a comme un petit côté ressemblant dans la mesure où tous les deux ont considéré Paris comme le lieu où ça se faisait, le lieu où ils ont composé leur identité. Villa-Lobos, c'était dans les années 20, Crashberg, c'était dans les années 50. Ils sont tous les deux amoureux de Paris, et Paris a été pour eux nécessaire, pour eux, même essentiel, pour la création de leur notoriété, de leur œuvre. Et les gens qu'ils ont rencontrés et la passion qu'ils ont eue pour Paris a fait d'eux, au Brésil, des grands, grands artistes renommés mondiales, mais surtout au Brésil. Vous savez, Paris, à l'époque, que ce soit dans les années 50 ou dans les années 20, c'était un lieu de reconnaissance. Et c'est vrai que c'est très important pour la carrière de Villa-Lobos
et de
Crashberg. Et lui, Crashberg, est resté à Paris, a vécu à Paris. Villa-Lobos venait se ressourcer, mais Crashberg venait effectivement lui aussi se ressourcer, mais exposer, se montrer et revenir au Brésil dans sa merveilleuse résidence, dans ce meilleur atelier qui était au bord de l'océan Atlantique, à Nova Viçosa.
Donc
c'était vraiment un lieu extrême, parce que c'est un endroit qu'il a entièrement reconstruit. Il a construit sa maison sur une branche d'arbre, comme il dit, absolument gigantesque. Et il a replanté, plus modestement que Sébastien Salgado, qui lui a replanté plus
des
de 3 millions et demi d'arbres dans la propriété qu'il a héritée de son grand-père, qui était pratiquement la taille du Portugal. Crashberg, lui, à Nova Viçosa, avait réussi à avoir une énorme propriété, et il a replanté, il avait des collections d'arbres extraordinaires, et petit à petit, il recréé la forêt autour de lui, et c'était ça sa passion, au milieu de ses ateliers, parce que je dis bien ses ateliers, puisqu'il avait l'atelier pour les empreintes, l'atelier pour les moulages, l'atelier pour les bois brûlés, et il travaillait avec 4-5 assistants tout le temps, toute sa vie, tout le temps. J'allais dire nuit et jour, il se couchait très tôt.
Oui. Et
il se levait très tôt, et même à Paris d'ailleurs, mais là-bas, et il travaillait toute la journée. C'est un homme qui a travaillé tout le temps, toute sa vie, et c'était un peu son leitmotiv, c'était un peu sa revendication. Il disait toujours travail, travail, travail. Et c'était un homme qui m'a apporté énormément, parce que quand même, à chaque fois que j'étais avec lui, même dans des jardins aussi banals un jardin aussi banal que le jardin de la dalle au-dessus du TGV,
oui.
Atlantique, il arrivait à trouver des choses magnifiques, des fleurs, des formes. Parce que, en fait, Crashberg, comme nous on aime dire, comme lui disait, c'est quand même l'art de voir. Quand vous baladiez avec lui, vous pouvez lui montrer une fleur, il dit « Ah, ça c'est nul, ça c'est moche ». Mais quelques centimètres à côté, il vous montrait autre chose. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça devenait... Il avait l'œil. Et ces photos, justement, montrent que ce soit ces photos dénonciatrices ou ces photos artistiques, il avait quand même un art de voir. Et c'est ça qu'il a transmis aussi, à la fois un art de voir, un art de dénoncer et de ne pas faire des petites choses. Il disait, fais pas des petites choses, fais des grandes choses. Et les grandes choses, c'est de dénoncer, c'est l'engagement. Et ça, c'est encore, comme je disais au début de cette émission, c'est vrai, l'engagement, c'est le mot-clé de l'œuvre de Crashberg.
Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes sur Radio à lire, c'est l'émission Lusitania. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Éric Darmon, secrétaire général de l'association Les Amis de Frank Crashberg. Donc, on va continuer à parler, bien sûr, de cet espace, Frank Crashberg. Vous faites partie, donc, de ce comité d'administration. Vous avez parlé que, bon, depuis que Frank Crashberg est décédé, il y a d'autres artistes qui viennent. Comment les comités d'administration font son choix? Est-ce que c'est simplement parce que sont liés à ses œuvres à la nature? Est-ce que c'est parce que c'est des œuvres qui ont quelque chose à voir avec Crashberg? Quelle est la ligne conductrice de ce choix que vous avez fait tout au long de ces années?
C'est exactement ça. C'est que la ligne éditoriale, c'est d'abord la proximité avec Crashberg et son œuvre. Mais une proximité qui n'est pas forcément une proximité de vie. Ça peut être aussi, et c'est, une proximité dans la création artistique. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et surtout, ce que je veux absolument dire, c'est que ce n'est pas une galerie. Donc, nous, on ne vend rien, on ne vend pas, on expose, on fait se rencontrer des artistes qui travaillent sur ce thème art et nature. Et il faut qu'ils aient quand même un lien avec l'œuvre de Crashberg, un dialogue. C'est vraiment un lieu de dialogue. Il peut y avoir aussi 3-4 artistes qui exposent en dialogue, mais toujours avec cette exigence de dialoguer avec Crashberg, de trouver des liens. En ce moment, on expose Rodrigo Braga dans une deuxième volée d'une exposition hommage à Crashberg. Eh ben, Rodrigo travaille, mais vraiment, et il le dit lui-même, il a été inspiré, il a été nourri par l'œuvre de Crashberg. Et nous l'avons rencontré, déjà exposé plusieurs fois. Et donc ce sont des artistes qui vraiment, comment vous dire, ont été influencés, mais en même temps ont grandi avec, et se retrouvent grandis grâce à cet échange avec Crashberg. Donc le comité de sélection, c'est... On rencontre des artistes, les artistes viennent nous voir, qu'ils soient brésiliens ou français, on a exposé beaucoup d'artistes français. C'est des coups de cœur aussi, nous nous réunissons, nous prenons les dossiers, nous regardons, mais il y a aussi, donc, comme je vous ai dit, les cartes blanches, ça c'est particulier, ce sont vraiment des amis de Crashberg qui sont vraiment, qui ont complètement, racontent leur point de vue, leur vision de Crashberg. Et ça, c'est absolument passionnant aussi. Donc, on a quand même beaucoup d'expositions, pratiquement 4 par an. Et c'est vrai, depuis 7 ans qu'on a réouvert l'espace Crashberg, malgré le Covid, malgré les travaux, malgré tous les problèmes que nous avons eus, nous tenons bon. Et je ne veux surtout pas oublier Capucine Boot, qui est notre directrice déléguée de l'association, qui, grâce à elle, grâce à sa pugnacité, grâce à connaissance aussi du Brésil et des artistes brésiliens, on arrive vraiment à rencontrer des gens formidables. Et voilà, elle est passionnée, comme nous le sommes. Sylvie de Ponte, n'en parlons pas. D'ailleurs, c'est extrêmement dangereux de nous réunir tous les trois, même avec Jean Gauthier, même avec les autres, là, avec Jacques Liénard qui est venu récemment au comité, au conseil d'administration. Nous sommes intarissables, nous sommes dangereux, quoi. Nous sommes des Crashbergiens dangereux.
Vous commencez à parler, vous finissez plus.
On finit jamais parce que c'est tellement passionnant, que ce soit sur le fond, sur l'histoire et sur la forme. Parce que son œuvre, elle est... Je ne veux pas être pompeux, mais c'est vrai qu'elle est éthique, mais aussi elle est esthétique. Elle est esthétique et elle est aussi éthique. C'est-à-dire que c'est vraiment une œuvre où il réunit les 4 éléments du cosmos, il réunit la dangerosité de l'être humain sur la nature. Il a les grands sujets, son manifeste du Rio Negro. Il faut le lire, Pierre Restany. Évidemment, ce n'est pas Crashberg qui l'a écrit, c'est Pierre Restany, parce que Crashberg... était très taiseux, il parlait très, très 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 peu, comme vous avez entendu, il avait un très fort accent, mais il avait un très fort accent aussi bien en portugais qu'en français. Il arrivait à Paris tous les ans, au mois de novembre, décembre, il aimait bien cette période, parce qu'il faisait trop chaud là-bas, avec un leitmotiv. Il avait 4-5 phrases qu'il avait préparées pratiquement toute l'année, et il nous les ressassait pendant tous les dîners, pendant tous les moments, les conférences que nous faisions avec lui. Mais c'était comme à Davos, il a été milité à Davos. À Davos, il a crié devant tout le monde, ils étaient terrorisés, les gens, parce qu'il avait un langage, une parole à la fois simple mais très profonde. C'est-à-dire que vraiment, chaque mot avait un poids, chaque mot était un cri.
Et ça,
c'est ça qui est fort. Et ça touchait les gens dans sa simplicité. J'allais dire l'idéologue, le penseur, l'historien de l'art, c'est évidemment Pierre Restany. Et quand vous lisez aujourd'hui le manifeste du Rio Negro, du naturalisme intégral, mais c'est incroyable de modernité. Évidemment, Sylvie de Ponte écrit aussi très bien, Jacques Liénard également. Comme je disais, Claude Mollard a écrit un très très beau livre de référence. Il y a une nouvelle biographie qui est en train d'être publiée, qui vient juste d'être publiée au Brésil par João Meireles, qui est un historien de l'art, qui est très très proche de Krasberg, qui est très technique, qui est très profonde, qui nous dévoile des choses qu'on ne connaissait pas, malgré toute notre expérience krasbergienne. C'est absolument passionnant. Donc on va essayer de l'éditer en français, parce que je pense que c'est un livre nécessaire, peut-être pas grand public, mais vraiment nécessaire pour bien comprendre la profondeur de l'œuvre de Krasberg.
Alors après cela, on va écouter encore Heitor Villa-Lobos avec un morceau qui s'appelle « Prelude du Front Bacchanage Brésilien », mais le numéro 4. Alors, ce morceau est interprété par Nelson Freire. Et c'est une œuvre originale pour piano, écrite en 1930-1941, dont la version pour orchestre a été transcrite par Nelson Freire en 1942. Donc, on écoute tout de suite cette prélude. Donc on vient d'écouter cette belle interprétation de Nelson Freyd de Preludio de la Bacchanale brésilienne numéro 4 de Heitor Villa-Lobos. Et on est bien sûr sur Aligre FM 93.1, l'émission Lusitania. Et notre invité aujourd'hui est Éric Darmon, secrétaire général de l'association Les Amis de Franck Krachberg. Alors, cette association, on en a parlé de beaucoup de choses, mais il y a des événements qui vont se dérouler là, bientôt. Oui. Dont la Nuit Blanche. Donc, vous pouvez nous en parler un petit peu de ces événements qui vont y avoir, parce qu'il va y avoir des films qui vont être projetés, plus de la musique, etc. Voilà. Racontez-nous un peu.
Donc, ça fait plusieurs années que nous participons à la Nuit Blanche, et donc cette année, c'est le samedi 7 juin. Et donc, nous investissons le fond du chemin du Montparnasse, tout autour donc de l'espace Krachberg. Il y aura une projection en extérieur, donc justement du film que j'ai produit et réalisé par Maurice Dubroca, Franz Krachberg, Portrait d'une révolte, qui sera projeté donc en boucle et sonore, évidemment. Et à l'intérieur, il y aura une vidéo aussi de Bianca da Costa qui est intérieur da Terra. Et ça, c'est vraiment une œuvre magnifique. Et Bianca est très proche de nous. Nous l'aimons beaucoup. Nous l'exposerons bientôt avec Yann Beauvais au mois d'octobre, novembre.
À la rentrée.
À la rentrée, donc en septembre, il y aura aussi une exposition dédiée à la fondation Yves Rocher, puisque la fondation nous aide beaucoup, c'est un de nos partenaires, avec deux autres partenaires, si vous me permettez.
Bien sûr.
Je voudrais les citer. Donc, The Sandbox, qui est une plateforme interactive de jeux, qui est très proche de Krachberg, une métaverse, comme on dit, qui n'a étonnamment rien à voir avec Krachberg, mais les fondateurs sont très proches de nous. Et voilà, donc il y a aussi la ville de Paris qui nous aide, et Louis Ségur de Charbonnière, qui est aussi une personne qui nous aide, et évidemment Jacques Rocher, qui est un des proches de Krachberg. Donc, très belle collection d'œuvres de Krachberg. Alors, durant cette soirée donc, de la Nuit Blanche, il y aura aussi une drôle de performance. C'est donc notre cher ami Jean-Jacques Lemaître, qui est musicien du Théâtre du Soleil, qui est un homme qui a construit plus de 1000 instruments, qui est un homme qui connaît l'histoire de la musique du paléolithique jusqu'à aujourd'hui, et qui nous fait une performance de 2 heures, justement à partir de sons. C'est l'histoire des sons, finalement, à travers sa vision du monde des sons. Et il nous fait une performance de 2 heures qui traverse le temps, qui traverse le son, qui traverse la pensée. C'est à la fois drôle et en même temps interrogatif. Jean-Jacques est un performeur, puisque pour le Théâtre du Soleil, il a toujours accompagné Ariane et son théâtre en musique, dans ses pièces qui pouvaient même durer 4 heures, 5 heures, voire 7 heures. Et voilà, donc c'est un moment exceptionnel. C'est une performance de 2 heures qui va être diffusée, enfin qui est présentée de 21h donc à 23h. Mais Jean-Jacques restera pour vous expliquer un peu tout ça.
Alors, sa performance s'appelle, si je ne me trompe pas, Musicalopithèque.
Exactement.
Donc,
ça dit tout.
Voilà. C'est assez étonnant. On va écouter un petit morceau donc, de Jean-Jacques Lemaître pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche pour cette performance.
Le son à l'oreille.
Ah oui, exactement. On l'écoute.
Alors, là, j'ai un instrument qui est un des plus vieux tambours aztèques, qui est un tambour pour simplement parler avec un autre tambour. Mais ça, le son est légèrement désaccordé. On dit, ah bon ? Oui, parce que quand on joue les deux en même temps, donc comme ça, le son porte plus loin. C'est donc tous les instruments, balinais, javanais, toute l'Indonésie, les instruments indiens, quand ils jouent à deux, masculin et féminin, ils sont tous un peu désaccordés pour que le son produise des battements entre eux et donc porte plus loin dans la forêt, puisqu'ils jouent tous dehors. C'est la notion de concert dans une salle est quelque chose de complètement contemporain. Ça n'existe pas vraiment là-bas. Donc, c'était juste pour vous faire voir ça. Après, on arrive dans un petit peu les mélodies. Piano du pauvre, Mbira, Sanza, ça a 10 000 noms ce truc-là. Et donc, je l'ai accordé occidental. T'as l'impression que la mélodie, tu l'as déjà entendue partout. Tu vois, elle est normale à ton oreille. Le son est presque pur. Ok ? Pour un Africain, ça, c'est totalement merdique. Oui. Le son africain, c'est ça. Or, on est les seuls en Europe à avoir des sons qui font ça.
Alors, on vient d'écouter juste un petit extrait de ce que Jean-Jacques Lemaître va nous présenter donc samedi prochain, 7 juin, pendant les Nuits Blanches, à l'espace Franck Krachberg.
Un effort, Franck voilà. Krachberg.
Voilà, exactement, merci. Et donc, pendant cette performance, Jean-Jacques Lemaître nous montrera des instruments venus oui. d'un peu partout oui. et même fabriqués par lui.
Par lui-même.
Et donc c'est quelque chose d'assez étonnant, ouais. de c'est des sons ouais. différents qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, auxquels notre oreille n'est pas habituée, parce que c'est pas notre culture musicale, mais qui nous fait découvrir pendant cette heure de performance.
Plus de 180 instruments différents.
Voilà, donc c'est quelque chose vraiment à découvrir. Oui, oui, oui. Et puis après, il y a le 14 juin.
Grand événement.
Voilà. Et ce 14 juin, à la Cité du Développement Durable, Jardin d'Agronomie Tropicale de Paris, qu'est-ce qui va se passer avec cet cri pour la planète ?
Voilà, donc c'est une exposition très, très importante pour nous et très importante pour l'association Coal aussi, avec qui nous partageons ce moment, qui nous accueille dans ce moment et qui participe aussi à l'installation à la fois d'un lieu de promenade dans lequel on va exposer donc, des photos de Sebastião Salgado et de Franz Krachberg, parce que cette nuit, c'est aussi une nuit du 14 au 15 qui est aussi dédiée à Sebastião Salgado et à Franz Krachberg, qui vont ensemble, nous allons crier ce cri de révolte qu'il a poussé, ce cri pour la planète, je veux dire, qu'il a poussé déjà en 2023 dans les jardins de Bagatelle. Et donc, pour la continuité de ce combat, pour la continuité de ce message de Krachberg, nous avons réuni un certain nombre d'artistes qui seront à la fois installés. Donc, il y aura donc trois photographes, des grandes expositions de Sebastião Salgado, des photos de Krachberg et de Rodrigo Braga également. C'est une sorte de parcours qui va avoir lieu, qui va être pérenne et qui ensuite, donc, il y aura donc dans cette soirée qui est la soirée de l'arbre, la nuit de l'arbre, il y aura effectivement d'autres performances d'artistes, de musiciens, de projections. Il y aura vraiment tout un événement et c'est très très important que vous veniez, parce que là il va y avoir vraiment un message, et ce message est la signature aussi d'un manifeste qui sera apporté donc à Belém pour la COP30, et nous allons recrier effectivement lors de cet événement ce cri pour la planète que Krachberg donc a déjà poussé, mais que nous allons réitérer, réactualiser, parce que aujourd'hui le combat n'est pas terminé Du tout.
Non, pas du tout.
Du tout.
Et malheureusement.
Donc, malheureusement. Et c'est vrai qu'avec cette nuit des forêts et tout cette équipe finalement qu'on est en train de constituer autour de cet événement, on va pouvoir manifester, parce que c'est une forme de... C'est un manifeste en fait.
Voilà,
c'est une manifestation, mais c'est un manifeste.
Et ça va durer jusqu'au 31 août.
Voilà, exactement.
Donc vous...
Le CRI, c'est juste une nuit.
Voilà, une
avec
nuit.
Avec la nuit des forêts. D'accord. Et ça, c'est la nuit du 14 au 15, mais l'exposition
restera jusqu'au 31
voilà.
août.
Et donc, c'est en extérieur. Donc, vraiment, c'est un endroit magique. Hein. C'est les vestiges de l'exposition universelle. C'est une promenade exceptionnelle. Et là, on vous sera accompagné et guidé par ces trois photographes, trois générations différentes. Qui vont chacun apporter leur regard et leur passion et leur détermination et leur engagement. Encore une fois, c'est le mot clé de tout ça, de tout ce que je viens de dire, c'est le mot engagement.
Et pendant cette soirée, il y aura bien sûr ces artistes qui seront là, mais aussi des chercheurs et des scientifiques qui vont en parler à partir des 19h, donc à la Cité du développement durable au Jardin d'agronomie tropicale de Paris, au Bois de Vincennes.
Donc, et il y aura la signature, évidemment, de ce manifeste.
Pour pouvoir
c'est un geste, hein, voilà. C'est un geste politique dans le bon sens du terme, c'est un geste d'engagement pour tout le monde. Et tous les participants, comme vous disiez très justement, des scientifiques, des artistes, il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Et je vous invite vraiment à venir.
Les 14 juin, donc aux Nuits de la Forêt, l'événement s'appelle Les Cris pour la Planète.
Le CRI.
Les Cris pour...
Cris pour la Planète.
Voilà. Cris voilà. Pour la planète.
Et je tiens à souligner aussi donc l'association COAL qui est vraiment à l'initiative.
Qui fait partie, oui. Alors, si vous voulez connaître un petit peu qu'est-ce que c'est cet espace Kreisberg, donc vous pouvez toujours passer, les contacter dans leur site, bien sûr, il suffit d'y aller sur...
.fr, espace Kreisberg.
Voilà.
.fr.
Et sinon, un numéro de téléphone 09 50 58 42 22 pour avoir un peu plus de renseignements et d'informations sur ces événements et d'autres événements qui vont
à venir
tout au long
tous
de l'année.
Tous les trois mois,
voilà.
Nous avons
il y a quelque chose de différent.
Et si vous inscrivez à la newsletter, vous recevrez toutes les informations.
Alors, sur cela, malheureusement, l'émission touche à sa fin. Donc, restez bien sûr à l'écoute de Radio Aligre. Suis version originale avec Patrick, Léon, Émile. Un grand merci à Armand Gury qui était à la technique de cette émission sans laquelle elle n'aurait pas pu être faite. Merci bien sûr à Eric Darmon pour être ici avec nous. Et nous, on se donne rendez-vous samedi prochain de 18h à 19h. Et on se quitte avec Negro River. La rivière noire, on écoute. Thank you.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.